Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Patrick Derry. Santé, identité, environnement, éducation, économie. Il repart les problèmes et propose des solutions. Patrick Derry.
La loi 21 et la loi 96, respectivement, sur la laïcité et sur le statut du français au Québec, ont évidemment ramené au cœur de l'espace public les débats de nature plus identitaire. Les principales justifications qui ont été données par le gouvernement, c'est de dire, ben écoutez, la majorité est d'accord, donc on est d'accord et on va de l'avant. Joanne Poirier, professeure de droit constitutionnel à l'Université McGill, et elle a dit une chose qui, moi, me frappait. Si la règle de la majorité simple avait eu cours au Canada depuis plus de 150 ans, la nation québécoise n'existerait peut-être plus. Madame Poirier est avec nous, on va lui en parler. Bonjour, Madame Poirier.
Bonjour.
Écoutez, je sens chez vous, est-ce que je sens une certaine inquiétude dans la lettre que vous avez écrite cette semaine dans la presse?
Oui, oui, je pense. Je voudrais dire, il y a aussi une fierté là. Je veux pas renier les acquis de la nation québécoise. Je voulais souligner les acquis de la Révolution tranquille. Je voulais souligner les pouvoirs dont dispose le Québec, mais qui sont pas entiers, et les limites que pose le fédéralisme. Mais dans ce contexte-là, je voulais souligner que la nation québécoise était une nation qui a atteint la maturité, qui est puissante tout autant que vulnérable. La crainte que j'ai, ou les craintes que j'ai, sont multiples. Il y en a une, évidemment, moi aussi, la crainte de l'affaiblissement du français. Je travaille au centre-ville de Montréal, je le constate fréquemment. Donc, c'est pas, je pense pas que c'est une lubie là, de vouloir s'attaquer à ce problème-là. Ma préoccupation première, c'est de maintenir à l'intérieur du discours plus nationaliste qui prend des tournants plus identitaires, comme vous l'avez souligné, des tournants qui font appel au peuple ou à la nation ou à la majorité pour écarter, par exemple, les droits fondamentaux, pour jeter une sorte de soupçon sur le pouvoir judiciaire. Pas parce que je pense que les juges ont toujours raison et pas parce que je crois que les élus ne doivent pas avoir le dernier mot, mais je pense que la démocratie, c'est dans le débat entre différentes institutions, différents groupes, et que surtout un groupe majoritaire, parce que les Québécois sont à la fois minoritaires au Canada, évidemment en Amérique du Nord, et majoritaire, entre guillemets, chez eux. Ben, quand on est majoritaire, on doit se comporter, si on est démocrate, avec un certain respect pour les minorités, les règles de droit et pour les droits fondamentaux, et particulièrement la Charte québécoise. Moi, c'est un truc qui me fascine, c'est à quel point la Charte québécoise, qui a été adoptée avant la Charte canadienne, qui est modelée sur les conventions internationales en matière de droits de la personne, qui a servi de modèle, est écarté au nom de l'identité québécoise et de la majorité québécoise. Et là, ça me préoccupe en tant que citoyenne, en fait.
Oui, parce que là, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce qu'on oublie, c'est qu'on parle souvent de la charte canadienne qui a été imposée finalement au Québec, qui l'a jamais signée, mais la charte québécoise est venue avant. Elle a un statut quasi constitutionnel, c'est-à-dire que même si c'est pas une constitution dans la forme, il y a toujours une convention de la part de tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale que si on voulait modifier cette loi qui est un peu une loi fondamentale au Québec, ça prenait une unanimité, et c'est ce qui est arrivé jusqu'à tout récemment, c'est-à-dire que à quelques exceptions, des fois, c'est arrivé qu'un député individuel s'objecte ou en tout cas s'abstienne, mais chaque fois que la charte a été modifiée depuis son instigation en 1977, il y a eu toujours l'unanimité des partis. Et là, pour faire passer la loi 21 et la loi 96, la loi 21 en particulier, le gouvernement a modifié sa propre charte, donc modifier des droits qui étaient garantis, et j'imagine que c'est ça qui vous dérange un petit peu.
Ben, il y a la modification de la charte, mais il y a surtout la suspension. Donc, il faut peut-être expliquer ça, c'est-à-dire que en vertu du droit canadien et du droit québécois, on a des chartes. La charte canadienne, entre guillemets, est supérieure à la charte québécoise, si vous voulez, parce que c'est la constitution du Canada, qu'on le veuille ou non. Là, on fait encore partie du Canada. Mais les deux chartes se complètent, si vous voulez. Elles peuvent se superposer. Il y a des droits qui sont très similaires, puis il y a des droits qui sont différents. La charte québécoise, elle a une plus grande portée. Elle protège les droits économiques et sociaux. Elle protège l'éducation gratuite, etc., etc. Ce que la charte canadienne ne fait pas. La charte canadienne protège d'autres droits, des droits linguistiques, les droits des autochtones, etc. Donc, les deux chartes sont assez complémentaires. Mais dans les deux instruments, et c'est relativement inusité là, dans le monde, on peut trouver plus ou moins des équivalents, mais c'est assez rare. Il y a des dispositions qui permettent, dans certaines circonstances, avec certaines procédures, de dire que certaines lois vont être immunisées contre l'application de la charte. Donc, on peut pas utiliser, les juges, par exemple, peuvent pas utiliser la charte pour annuler une loi qui serait contraire au droit à l'égalité ou à la liberté de religion, à la liberté d'expression, au droit de ne pas subir une saisie qui serait pas justifiée ou qui serait pas réalisée en vertu d'un mandat émis par un juge, etc. Et donc, ça a été fait dans ce contexte-ci, de façon, dans le contexte de ces deux lois, de façon mur à mur, un peu pour dire c'est une expression de la volonté populaire, c'est une expression de la nation québécoise, ce sont des chartes extrêmement importantes, des lois extrêmement importantes, et on veut pas subir l'affront, si on veut, de passer devant les juges, surtout des juges qui sont dans la plus grande partie choisis par l'autorité fédérale. Et donc, il y a les deux côtés. Là, il y a le côté de modification de la charte et puis suspendre son application dans des cas particuliers et le faire sans un très grand débat social. Voilà. Excusez-moi, je parle beaucoup. Quand t'as changé,
non, c'est
la
correct.
Charte, évidemment, on peut le faire. La question, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire. On peut suspendre les droits fondamentaux en invoquant les clauses de dérogation. On peut modifier la charte québécoise par simple majorité parlementaire. Juridiquement, on peut le faire. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Et c'est là que dans ce contexte-là, que j'ai écrit cette lettre en disant, c'est pas parce qu'on peut qu'on a des droits, qu'on peut les utiliser de n'importe quelle façon parce qu'on doit protéger la démocratie. La démocratie, elle est fragile. Et je ne veux pas faire de procès d'intention au gouvernement. Je ne suis pas en train de dire qu'on est dans une dérive autoritaire, etc. Mais on est dans un monde en ce moment où la démocratie à travers l'Occident, et à travers le monde, mais à travers l'Occident, est fragile. Qu'on pense à la montée de l'extrême droite en France ou à ce qui se passe évidemment ailleurs. Et donc, il faut toujours garder ce phare démocratique, cette optique démocratique, et la démocratie, c'est pas juste la règle de la majorité simple.
Justement, je vais vous poser une question toute simple, qui a l'air sans doute naïve, mais qui semble un petit peu difficile à comprendre, parce que c'est pas la position que le gouvernement défend, le gouvernement du Québec. C'est pourquoi c'est important, les droits fondamentaux? Je pense à la laïcité, je parle aux droits des minorités linguistiques. Pourquoi c'est important? Pourquoi le gouvernement peut pas les changer comme il le veut s'il y a la majorité?
Écoutez, je dirais que c'est une très, très bonne question. Pourquoi on peut pas les changer? C'est parce que la majorité, elle peut opprimer les minorités. La majorité, elle prend des décisions pour elle-même. La majorité n'a pas souvent besoin de protection. Évidemment, on va dire la majorité québécoise, comme on est aussi une nation minoritaire au Canada, on a besoin de certaines protections. Le fédéralisme, quelque part, nous offre une certaine protection, puisque c'est grâce, entre guillemets, au fédéralisme qu'on a des institutions, des compétences, des ressources, un parlement, etc. Et on peut prendre des décisions pour nous-mêmes. Évidemment, si on était souverain, on aurait tous ces pouvoirs-là et encore plus. Mais ce que je veux dire, c'est que si les Québécois avaient été une simple minorité francophone à l'intérieur d'un État qui aurait été unitaire, qui n'aurait pas été une fédération où la majorité aurait été anglophone, c'est comme ça que je viens de dire, si ça avait été la règle de la majorité, on aurait pu disparaître parce que la majorité, elle n'a pas vraiment d'intérêt à protéger la minorité. La majorité, elle prend des décisions pour elle-même. Sauf si elle se considère comme étant une majorité inclusive, démocrate, et préoccupée des minorités. Et c'est là qu'on protège des droits parce que les minorités sont vulnérables. Les minorités devant un parlement majoritaire, elles peuvent pas faire grand-chose. Et les droits, ben c'est important. Écoutez, moi je suis une femme. Si on n'avait pas eu des droits fondamentaux, on se battrait encore pour les droits à l'égalité. On se bat toujours, mais le droit à l'égalité est extrêmement important. On parle de l'avortement tous les jours là, depuis une semaine. Le droit à l'avortement est protégé au Canada grâce à la Constitution. Si on avait un gouvernement peut-être très conservateur dans 10 ou 15 ans et qu'on n'a pas une protection constitutionnelle, qu'on n'a pas des droits, ben ils peuvent tout à fait légiférer pour interdire l'avortement. Maintenant, ici, et là, je vais aller peut-être là où vous ne direz pas m'amener, mais évidemment, un gouvernement, ce serait fédéral, c'est une compétence fédérale qui voudrait interdire l'avortement et qui voudrait utiliser la clause de dérogation, ben pourrait le faire. Et donc, c'est pour ça que les droits sont très importants, pour protéger contre parfois des décisions de la majorité, et que la clause de dérogation, elle doit être utilisée avec parcimonie et énormément de précautions. Parce qu'à nouveau, elle pourrait être manipulée, utilisée par des groupes pour opprimer des minorités. Et encore une fois, je ne fais pas un procès d'intention au gouvernement en place.
Non, on vous comprend
je
bien.
Je vais placer ça de façon plus large.
Non, mais on vous comprend bien, puis c'est intéressant, parce que vous mentionnez la clause de dérogation, mais je me rappelle du premier ministre de l'Ontario, je pense que c'est Bill Davis, qui disait on l'avait prévu pour pouvoir permettre des programmes de discrimination positive. Donc, c'était pas pour enlever des droits, c'était pour être sûr de pouvoir en ajouter sans se faire constater. Je pose une dernière question. Mm-hmm. Le titre de votre texte, c'est « La nation québécoise face à ses responsabilités ». Puis c'est un texte qui est quand même, somme toute, très positif, qui dit qu'on devrait se faire plus confiance en ça. Mais est-ce que ça se peut que certaines mesures, certaines décisions gouvernementales, là, c'est un peu un réflexe défensif, peut-être un petit peu pessimiste?
Oui, je pense. Et en même temps, on peut pas prétendre que, comme je vous l'ai dit, que la nation québécoise vit pas certaines vulnérabilités et que le français a besoin d'être embrassé, a besoin d'être défendu, a besoin d'être protégé, a besoin d'être promu. Maintenant, les différentes façons de faire ça, évidemment, là, on pourrait avoir tout un autre débat par rapport à ça.
Bon, on pourra s'en reparler.
sur toutes les méthodes qui pourraient être utilisées. Moi, j'ai envie de célébrer le français. J'ai envie de donner aux gens l'envie de le lire, l'envie de le chanter, l'envie d'écrire, etc. Je pense qu'il faut pas juste avoir des mesures restrictives, bien que moi je suis une fervente croyante dans la loi 101. Là. C'était évidemment une loi très très radicale dans les années 70, mais elle a réussi à faire en sorte qu'on a pu intégrer des dizaines de milliers de personnes qui sont venues du bout du monde et qui vivent maintenant avec nous largement en français. C'est une réussite formidable. Donc, moi, ça me rend relativement optimiste. Je vois aussi beaucoup de gens, même si le débat est assez polarisé et parfois un peu brutal, des clans qui s'opposent sur certaines mesures et parfois pas toujours de façon élégante, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans tout ça assez raisonnables, qui veulent avoir des solutions mitoyennes, qui veulent se parler, qui veulent vivre ensemble. Et moi, je pense que la nation québécoise, ça peut être une nation, en tout cas celle dans laquelle j'ai envie de vivre et celle à laquelle je m'identifie, c'est une nation qui est accueillante, pour utiliser le terme de collègue politologue à l'UQAM, Gagnon-Mathieu, hospitalière, qui est une nation qui a confiance en elle, même si elle sait qu'elle doit prendre des mesures parfois qui sont des mesures de protection. Et donc, moi, je voulais pas avoir juste un discours pessimiste, négatif ou arrogant. Je pense que c'est pas constructif en ce moment.
C'est bien reçu. Jeanne Poirier, je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université McGill. Merci beaucoup pour cet entretien.
Avec grand plaisir.
Au revoir.
Au revoir.